Bien, bonsoir à toutes et à tous.
Je vous propose de démarrer avec un petit 10 minutes de retard. Bienvenue donc à ce printemps de la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société, où nous recevons ce soir le professeur Jean-Gabriel Ganassia. Alors j'ai constitué une petite bio qui est où j'ai pris connaissance de votre bio qui est très impressionnante. Je vais en donner quelques éléments très rapidement avant de vous laisser intervenir. Donc vous êtes informaticien et philosophe. Contrairement à ce qu'on pense, les maths et la philosophie, ça fait toujours alors maths info. Hein. Les maths et la philosophie, ça fait toujours bon ménage. Hein. Il n'y a qu'à regarder l'histoire pour cela. Alors vous avez fait à la fois des études d'ingénierie et de philosophie. Vous avez soutenu une thèse en 1983 à l'Université d'Orsay sur les systèmes à base de connaissances et une thèse d'État en 1987 sur l'apprentissage symbolique automatique. Vous êtes actuellement professeur à l'université, alors c'est Pierre et Marie Curie, mais c'est Sorbonne Université hein, maintenant. Et vous dirigez une équipe au laboratoire d'informatique de cette même université. Alors vous avez créé et dirigé un programme de recherche coordonné au ministère de la Recherche qui s'appelle Sciences Cognitives déjà, et un GIS Sciences de la Cognition au même ministère. Et vous êtes aujourd'hui président du COMETS, qui est le comité d'éthique du CNRS. Vos activités de recherche, alors c'est assez diversifié. C'est le machine learning, l'apprentissage machine, la fusion symbolique des données. Alors ça, peut-être vous allez nous expliquer ce qu'est une fusion symbolique. Hein. Une fusion fusion nucléaire, on sait ce que c'est. Fusion entre universités, on sait ce que c'est. Mais une fusion symbolique, peut-être allez-vous nous donner quelques précisions. Vous travaillez aussi sur l'éthique computationnelle et puis sur le versant littéraire des humanités numériques. Vous êtes également membre de l'IUF, l'Institut universitaire de France. Alors au-delà de vos très nombreux articles publiés dans des revues académiques, hein, vous avez également produit des ouvrages de vulgarisation avec en particulier un dernier ouvrage qui est largement cité, Le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle, hein. Vous allez, je crois, nous en parler également. Et donc j'invite l'auditoire à aller un petit peu fouiller sur tout ce que vous avez fait. Les sciences cognitives en 2006. Et vous avez commencé la vulgarisation, selon mes informations, en 1990 par l'âme machine. Et j'aurai le plaisir de vous poser quelques questions ou une question là-dessus tout à l'heure. Donc je vous propose sans plus attendre de démarrer hein, pour environ une heure ou même peut-être un petit peu plus. Merci.
D'accord. Alors donc merci de votre invitation. Vous m'entendez, ça va? Enfin, je sais pas d'ailleurs si le micro est nécessaire. Peut-être. Hein. Au moins. Ah oui, peut-être pour la captation d'informations. Je ne sais pas si je vais expliquer ce qu'est la fusion symbolique de données. Je n'avais pas prévu de le faire. Je peux en dire quelques mots si vous le souhaitez, mais on le fera peut-être après. Oui, voilà, c'est ça. Hein. L'idée, c'était de présenter ce qui concernait les déclarations un peu excessives d'un certain nombre de chercheurs hein, dans le domaine de l'intelligence artificielle et d'ingénieurs aussi, hein, qui déclarations qui sont d'autant plus inquiétantes hein, que elles émanent d'autorités tout à fait notoires. Et en particulier hein, de personnalités qui sont à la tête de très grandes entreprises de technologie, hein, comme Microsoft avec Bill Gates, ou comme Elon Musk, ou alors des gens qui ont des liens directs avec Google. Et donc, je propose de diviser cet exposé un peu en deux parties. Hein. Vous allez voir que, bien sûr, elles sont très distinctes, hein, puisque l'une va être un peu liée à la réflexion que j'ai conduite depuis quelques années sur la singularité technologique. C'était pour moi une espèce de devoir moral hein, que d'écrire ce livre, Le mythe de la singularité, pour répondre en tant que scientifique à ces arguments, voilà, hein, en disant d'essayer de voir en tout cas hein, si ces prétentions hein, ou ces déclarations, hein, ce qui pourrait être vu comme une forme d'apocalypse au sens de révélation hein, d'un certain nombre de gens étaient fondées. Donc je vais rappeler de quoi il s'agit, hein, et puis je vais donner quelques-uns de mes arguments, puis ensuite on ira dans un autre registre justement que je vais essayer de présenter après et qui a fait l'objet d'un roman que j'ai fait paraître il y a un peu plus d'un mois aux éditions Buchet-Chastel. Alors la présentation donc j'ai intitulé Intelligence artificielle, menace et ou opportunité, hein, puisque c'est souvent hein, la question que l'on pose, c'est est-ce que l'intelligence artificielle... Pardon ? Oui, bien sûr, oui, pardon. Oui, je me rends compte que... Est-ce que l'intelligence artificielle constitue une menace pour l'individu ou une menace pour la société ? Et c'est ce que je vais essayer d'aborder ici, même si, bon, je n'épuiserai pas hein, la question, puisqu'il me semble que c'est extrêmement vaste, puisque c'est notre monde entier, en réalité, qui est concerné, son évolution contemporaine. Mais avant cela, il m'a semblé utile de rappeler ce qu'est l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que le terme est extrêmement employé aujourd'hui et ayant travaillé dans le domaine depuis de très nombreuses années, hein, je croyais que le sens en était entendu même chez les spécialistes et je me suis rendu compte que même si beaucoup l'employaient, souvent on n'en connaissait pas l'origine et le terme lui-même est trompeur. Il est trompeur parce qu'il y a deux significations. Il y a un sens littéral qui est assez désarmant parce que c'est l'idée que quelque chose d'artificiel, c'est-à-dire de fait de main d'homme, comme un lac artificiel ou un bras artificiel, vous voyez, résultat de la technologie, tout d'un coup s'anime d'intelligence. On ne sait pas très bien ce que c'est que l'intelligence, mais ça fait très peur parce que on se dit peut-être que ça va nous dépasser. Et sûr, ça a fait l'objet de beaucoup de débats et on va reprendre ce terme-là. Mais l'origine du terme ne vient pas du tout de cela. L'origine du terme est relativement récente. Elle a été introduite, ce terme a été introduite, l'origine remonte à 1955. Et je vais, pour présenter ça, vous montrer ici une plaque commémorative qui est apposé sur un bâtiment l'université, c'est une université, Dartmouth College, hein, une université américaine hein, dans le New Hampshire, et elle résume assez bien hein, ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Hein. Donc il s'agit d'abord de quatre personnes qui sont Marvin Minsky, alors le premier John McCarthy, pardon, Marvin Minsky. Alors ce sont des gens qui, à l'époque, hein, alors j'ai dit 1955 parce que ce sont des gens qui ont rédigé un projet scientifique qu'ils ont soumis à la Fondation Rockefeller et qui leur a permis de financer une école d'été qui s'est tenue en 1956. Mais le terme a été inventé en 1955, parce qu'il a fallu. Et puis à l'époque, quand même, ça prenait un peu plus de temps qu'aujourd'hui. Et donc, ces deux personnes étaient assez jeunes, ils avaient 28 ans. Donc c'était des scientifiques brillants. Hein. Marvin Minsky était au MIT, hein, ce qui est très prestigieux aux États-Unis. Et John McCarthy était à Princeton. Ils avaient tous les deux une thèse de mathématiques. Et ils venaient de découvrir ces objets assez nouveaux, qui étaient les ordinateurs. Alors nous, ça nous fait rigoler, parce qu'on en a partout. Hein, mais il faut voir que le premier ordinateur électronique est construit en 1946. Vous voyez, 55, ça faisait 9 ans. Donc ils étaient vraiment au cœur de l'informatique. Hein. John McCarthy avait suivi des cours de von Neumann. Hein, il était absolument ébloui hein, par ça. Et ils se sont dit, mais on va pouvoir faire énormément de choses avec ces machines. Et à ce moment-là, donc, ils se disent peut-être qu'on pourrait essayer de mieux comprendre l'intelligence avec ces machines. Et c'est là où ils créent le terme intelligence artificielle. C'est une discipline qui va permettre d'explorer l'intelligence. J'insiste là-dessus parce que souvent, hein, bien sûr, on nous dit « Ah ben, vous ne savez pas ce que c'est que l'intelligence » ou « Comment vous définissez l'intelligence ?» Non, on ne la définit pas. puisque le but, c'est de mieux la comprendre, au contraire. Enfin, pour moi, ce sont des évidences, hein, mais je crois que c'est important de le rappeler. Alors, comment est-ce qu'on va étudier l'intelligence ? Ben, non pas en recréant une intelligence, parce que, bien évidemment, hein, c'est de l'ordre de l'imaginaire, de la science-fiction, hein, ça rejoint tout un tas de mythes, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme cela. Hein. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle, les gens, ils me disaient, mais vous y croyez à l'intelligence artificielle ? Alors, j'étais embêté, parce que moi, j'allais dans mon labo, je faisais des expériences, je travaillais, hein, et c'était pas une affaire de croyance, hein, c'était vraiment une affaire de science, c'est-à-dire de confrontation empirique entre un modèle et la réalité. Alors, quel est l'objectif ? C'est de décomposer l'intelligence. Donc, c'est pas de recomposer l'intelligence, au contraire, c'est analytique. On la décompose en facultés cognitives, en fonctions élémentaires. Et ensuite, on simule chacune de ces fonctions qu'on va confronter à la réalité. Et c'est exactement hein, ce qu'exprime, hein, c'est une phrase du projet hein, qui est ici, hein, qui est, vous la voyez, c'est la phrase qui est en bas. Hein, hein, cette discipline procède sur la base d'une conjecture. Donc, vous voyez, ce sont des mathématiciens. Donc une conjecture, c'est une proposition qui est toujours vérifiée, en tout cas qui a toujours été vérifiée jusqu'à présent, mais qui n'est pas démontrée. Donc on n'est pas sûr que ce soit vrai. Et effectivement, ça fait l'objet hein, de tout un tas de débats philosophiques. Hein. Est-ce que tout dans la pensée, tout dans l'intelligence se ramène à des calculs ? Par exemple, hein, en France, on voit bien des gens comme Pascal, hein, nous explique quand ils opposent l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Hein, en plus, lui, il savait ce que c'était qu'un calcul, il a fait une machine à calculer. Mais justement, il montre bien qu'il y a... Enfin, il ne montre pas, mais en tout cas, il nous dit... Hein, qu'il y a quelque chose qui va échapper à géométrie, à la rationalisation, hein, qui va être cet esprit de finesse, hein, ce qui, bien sûr, donne la grâce. Donc, c'est un engagement philosophique, donc hein, ça dessine un horizon. Et ces fonctions cognitives, donc ce qu'ils disent, vous voyez, on se fonde donc sur une conjecture et selon laquelle tous les aspects de l'apprentissage et toutes les autres caractéristiques de l'intelligence sont en principe, être décomposé en modules si élémentaires ou en fonctions si élémentaires qu'on peut fabriquer une machine pour les reproduire. Donc vous voyez, c'est vraiment important de bien comprendre ça, hein, parce que c'est le malentendu qui existe sur l'intelligence artificielle est lié à cela. Ça, c'est la définition en tant que discipline scientifique. Mais bien sûr, dans le grand public, hein, c'est l'autre sens hein, qui est le plus souvent entendu. Hein. Alors, à partir de ça, je voudrais quand même dire que cette discipline scientifique a eu des résultats extrêmement importants parce que, d'une part, ça nous permet de mieux comprendre l'intelligence. Mais en plus de ça, ça nous permet, si on utilise l'intelligence artificielle, de reproduire un certain nombre de facultés cognitives. Et ça, ça peut être utilisé dans beaucoup d'applications pratiques. Et aujourd'hui, hein, le monde est numérisé. Bien sûr, l'intelligence artificielle joue une part grandissante, puisque on est capable, hein, sur un téléphone portable, hein, on reconnaît la voix, on reconnaît les visages, etc. Mais j'ai donné quelques exemples hein, des réalisations de l'intelligence artificielle, et le premier que je crois important de donner, c'est le web, donc tout le monde utilise. C'est le couplage, vous le savez, hein, des réseaux de télécommunications, Internet, qui existe depuis pas mal de temps, avec un modèle de mémoire, donc c'est une fonction cognitive, qui a été imaginée en 1965 par un philosophe un peu, je sais pas si vous connaissez, c'est Ted Nelson, hein, donc c'est le concept d'hypertexte. Au départ, lui, il voyait ça comme une augmentation de la mémoire. Alors, il commence, hein, il écrit son premier livre de philo hein, en 1960, et il explique qu'il peine beaucoup, et il suit un cours d'informatique chez IBM, et il se dit, c'est formidable, je vais essayer de construire un outil qui va m'aider à démêler mes idées. Et à ce moment-là, donc, il dit « je vais passer 2 ans pour construire cet outil, ensuite j'écris mon prochain livre ». Bien sûr, il n'y arrive pas. Et à la fin, donc, il se rabat sur quelque chose de beaucoup plus simple, sur un texte augmenté de liens entre les textes qu'il appelle l'hypertexte. Et cette notion d'hypertexte, donc, qui va ensuite se développer hein, dans les années qui suivent, en particulier hein, au début des années 80, peut-être vous en souvenez, hein, il y avait Apple qui avait mis en place ce qu'ils appelaient HyperCard, hein, qui était un logiciel qui permettait hein, d'avoir des liens. On avait des cartes et on établissait des liens entre les cartes. Mais lui, explicitement, il disait que c'était un modèle de mémoire. Et ensuite, ce qui a été important, c'est Tim Berners-Lee, donc, qui est donc un Anglais qui, au CERN, hein, a décidé de réutiliser ce modèle de mémoire, mais simplement de faire en sorte que les liens ne soient plus limités à un ordinateur, à la mémoire d'une seule machine, mais au contraire, que ce soit des liens sur le réseau avec Internet. Et c'est ça, bien sûr, qui a donné hein, ensuite cette espèce d'explosion que nous connaissons tous. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle est quand même très présente dans nos vies par le web. Puis les moteurs de recherche, c'est de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le web sémantique, alors sans insister hein, sur quoi c'est l'intelligence artificielle. Puis bon, je vais donner des exemples. Les robots, hein, c'est de l'intelligence artificielle, du moins, il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans les robots. Hein, ce qu'on appelle les bots aussi, les véhicules autonomes, ça utilise de l'intelligence artificielle, hein, parce que il y a des fonctions cognitives qu'on va simuler, hein. Il y a des capteurs, des caméras, à partir de ça il faut interpréter les informations qui sont générées par ces capteurs, et ensuite on va construire une représentation, et puis à partir de cette représentation, c'est-à-dire cette organisation des connaissances en mémoire, on va prendre des décisions, tout ça de façon automatique, hein, ce qui simule bien sûr des processus intellectuels. La biométrie, donc là c'est de la reconnaissance, c'est de la perception, hein, reconnaissance d'empreinte digitale, reconnaissance de visage, la vision artificielle, hein, donc la reconnaissance de la parole, le traitement et la compréhension du langage naturel, etc. Hein, avec tout un tas d'applications, hein, par exemple les agents conversationnels, hein, ces espèces de petits espions domestiques hein, que vous mettez chez vous et qui vous permettent de commander de la musique hein, ou commander un repas hein, automatiquement. Hein, ça utilise de l'intelligence artificielle. Hein, ici, hein, la reconnaissance des visages, hein, hein, c'est impressionnant. Vous voyez, on a par exemple, FaceNet, vous voyez, qui apprend sur 200 millions d'images de 8 millions d'identités différentes, donc avec plusieurs images par personne, et dans des conditions particulières quand même, hein, c'est très contraint, hein, ça peut pas se mettre comme ça dans la rue, hein, mais dans ces conditions, on dit que, enfin, un article disait qu'ils avaient la possibilité d'identifier une nouvelle photo de quelqu'un avec un taux de succès de 99,63%. Ce qui est quand même très impressionnant. Même si, bon, ça pose tout un tas de questions, hein, et ce sont des conditions très particulières. Il faut pas croire que dans la rue, on pourrait obtenir ce taux de reconnaissance. Hein, et hein, en France, hein, je sais pas si vous savez, il y a un maire d'une très grande ville du sud de la France, hein, qui souhaite absolument mettre des portiques à reconnaissance faciale. Et en particulier, il veut le faire pour les événements festifs. Hein, alors, donc, c'est d'abord, ça marche pas dans la foule, et en plus, pour les événements festifs, ça ne peut pas marcher parce que hein, il est d'usage, par exemple dans un match de football ou dans un carnaval, c'est une ville où il y a un grand carnaval, de se grimer. Bien sûr, ça fait échouer complètement les systèmes de reconnaissance faciale. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Alors, les applications pratiques, hein, les techniques hein, qui ont eu beaucoup de succès ces dernières années, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Alors, il s'agit de quoi ? On donne des exemples et puis des caractéristiques de ces exemples. Par exemple, on donne des visages et puis les noms des visages, ou on donne des photos de grains de beauté et puis on donne le diagnostic qu'a fait un médecin sur le grain de beauté. Et à partir de ça, on obtient un système qui est capable de classer de nouveaux grains de beauté. Alors ça peut être utilisé pour beaucoup de choses, et en particulier pour ce qu'on appelle le profilage. Et la raison initiale pour laquelle les grands acteurs de l'Internet ont beaucoup utilisé l'intelligence artificielle, c'est le profilage. Alors vous savez ce que c'est, hein, le profilage, hein, c'est une technique qui vient de la psychologie criminelle, hein, qui détermine au départ, hein, qui est faite hein, pour déterminer hein, les traits hein, psychologiques d'une personne. Et puis ensuite, ça a été réutilisé par les grands acteurs de l'Internet, parce qu'ils veulent savoir quels sont nos désirs. Et pour ça, donc, ils vont utiliser toutes les miettes hein, numériques que l'on laisse sur les réseaux hein, pour essayer de voir qu'est-ce qui nous ferait plaisir. Donc, c'est tout à fait généreux hein, comme idée. Hein, mais bien sûr, l'idée, c'est de nous vendre quelque chose. Hein, c'est pour faire de la publicité adaptative, puisque le modèle économique actuel est fondé sur ce type de choses, hein, puisque au début hein, la difficulté, hein, et bon comme vous êtes économiste, on pourra en discuter, hein, c'est parce que il fallait fonder une économie sur du gratuit. Hein, en France, on avait le Minitel, c'était très pratique parce qu'on savait faire payer. Tandis qu'au début de l'Internet, c'était quelque chose qui apparemment était très, très, très généreux. Et personne ne voulait payer. Et donc l'idée, ça a été, on ne va pas payer pour le service, mais on va payer pour autre chose. Et donc, on ne va pas faire payer les gens qui utilisent le service, mais on va essayer de faire payer d'autres gens. Donc très vite, on s'est dit, on va faire de la publicité. Mais je ne sais pas si pour les plus anciens, vous vous souvenez, des premiers moteurs de recherche, c'était une espèce de bazar innommable, avec des couleurs dans tous les sens, c'était absolument affreux. Et les nouveaux acteurs se sont dit, non, on va faire de la publicité très discrète et qui va s'adresser à chacun. Et comme elle va être très ciblée, on va faire payer très cher les annonceurs. Donc il y aura peu d'annonceurs, mais ils seront très chers. Et bien sûr, pour ça, il faut savoir à qui on s'adresse. Et c'est ce à quoi sert l'intelligence artificielle. Alors après, ça s'est généralisé parce que pour beaucoup d'applications, on s'est rendu compte qu'on était dans une société d'abondance où il fallait stimuler le désir. Donc il fallait savoir qu'est-ce qui était capable de, quel était le désir qui était présent. Et donc tout ça donc explique pourquoi le profilage est aussi important, où les systèmes de recommandation sont aussi importants. Dans le domaine de la culture aussi, c'est tout à fait central. On veut vous faire consommer de la musique comme comme des savonnettes. Et donc, pour ça, on va vous profiler de la même façon. Alors, ensuite, la prédiction des risques, alors ça peut intéresser les banquiers, les assureurs, etc. Toutes les interprétations des signaux fournis par le capteur, parce qu'on va avoir dans le futur des capteurs qui vont être de moins en moins chers. Et donc, de ce point de vue-là, on va pouvoir interpréter toutes les données qu'ils fournissent, anticiper les risques, etc. Alors, je vous ai ici donné la première page, la page de couverture d'un livre écrit par un auteur à grand succès dont certains d'entre vous ont certainement dû entendre parler. Vous l'avez peut-être même lu. Il s'agit du livre Homo Deus de Yuval Noah Harari. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cet ouvrage, il nous explique que l'histoire de l'humanité, en plus là on est dans une maison des sciences de l'homme, donc la question bien sûr certainement peut intéresser, il nous explique, alors c'est un historien en plus, donc normalement c'est quelqu'un qui est de votre communauté et non dénué de talent, il faut quand même le dire, la lecture est quand même très 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 agréable, et il vend à des millions d'ouvrages, donc il nous explique que l'histoire de l'humanité divise en trois grandes phases. La première phase, les hommes soumis aux aléas de la nature, auxquels ils ne comprennent rien, essayent de maîtriser les choses. Et pour ça, ils vont inventer des divinités dont ils pensent ce sont elles qui manipulent l'ensemble des forces naturelles. Et dit ça, c'est l'âge des religions. Et puis ensuite, les hommes commencent par leur savoir, par leur science, à maîtriser un tout petit peu mieux ce qui se produit. Et à ce moment-là, donc, ils vont être capables d'anticiper les choses. Et ça, c'est l'âge de l'humanisme, puisqu'il n'y a plus les dieux ont été évacués, puisqu'on sait par des théories scientifiques anticiper ce qui va se produire. À ce moment-là, ce monde donc ne va plus avoir de guide, et donc il y a un être suprême qui est inventé, c'est l'homme avec un grand H, et c'est donc l'âge de l'humanisme. Et il dit, depuis quelques années, les choses changent, parce que les machines vont tout d'un coup en savoir plus sur nous que nous ne savons nous-mêmes. Par exemple, dit-il, j'ai parlé de le profilage, de la recommandation, les machines savent avant nous quel va être notre propre désir. Et il dit ça va très loin, parce que selon lui, et c'est peut-être la petite faiblesse d'ailleurs de ce qu'il dit, l'une des faiblesses, il dit les neurosciences font que aujourd'hui on va être capable d'anticiper les individus, mieux que les individus sont capables de le faire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est capable de savoir ce que vous pensez. C'est-à-dire que je ne sais pas tout à fait ce que vous pensez, je le vois un peu avec vos yeux, mais bientôt les neurosciences me permettront de savoir exactement ce que vous avez dans la tête. Et elles permettront de le faire même mieux que vous. C'est-à-dire que, donc ça, sur ça. Alors, tout ça, d'après lui, ça sonne la fin de l'humanisme, parce que ça veut dire qu'il y a des moments où l'homme ne pourra plus être libre. Parce que si, dans la société, les machines sont capables de nous anticiper et de faire des déductions qui sont meilleures que nous. Si, par exemple, dans le domaine médical, hein, vous avez une machine qui fait un diagnostic mieux que les meilleurs médecins, à ce moment, on va dire aux médecins, écoutez, arrêtez. Il vaut mieux que les machines soignent. Hein. D'accord. Et donc, à ce moment-là, bien sûr, ce qui faisait quand même le propre de l'homme, hein, qui est la responsabilité, bah, on se dira, en fait, les machines, les hommes deviennent irresponsables, justement, hein, parce que les machines sont plus responsables. Et alors, il appelle cette nouvelle phase de l'histoire de l'humanité le dataïsme, parce qu'il dit, au fond, ces machines sont fondées sur l'exploitation de grandes quantités de données. Et donc, il dit que c'est une nouvelle phase de l'histoire. Est-ce que c'est vrai ou pas, hein? Donc c'est une question. Hein? Je ne voudrais pas répondre tout de suite à ces questions et je voudrais prendre un certain nombre de menaces. Alors, autre menace, hein, et vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'on rejoint tout un tas de mythes, hein, autour de l'intelligence. Alors, est-ce que l'intelligence a-t-elle conduit vraiment à ça, hein? Hein, la question, hein, du double... De l'homme ou de la femme, c'est une question ancienne. Hein. Si vous regardez le mythe de Pygmalion, par exemple, hein, c'est un sculpteur qui tout d'un coup tombe amoureux de la statue qu'il a faite, hein, ou même plus récemment, hein, Villiers-l'Isle-Adam avec l'Ève future, hein, où on fabrique une femme, alors qui est l'image d'une femme, une femme parfaite, hein, puisqu'on a pris, on s'est débrouillé à ce qu'elle soit plus belle que toutes les femmes, mais en plus de ça, elle a une qualité que n'ont aucune femme, hein, elle ne ment jamais. C'est une petite parenthèse. Alors, hein, voilà, c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec l'intelligence artificielle. Et là, je vous présente, hein, alors vous avez le robot, il y a un robot qui est assez mastoc, mais sinon, il y a les robots du professeur Ishiguro, vous voyez, où vous ne distinguez pas vraiment entre le professeur et la créature du professeur, d'autant plus qu'il lui a implanté ses cheveux. Et puis, il a recommencé avec sa fille. Hein, il a fait un robot qui est une image parfaite de sa fille. Il appelle ça des géminoïdes. Alors bien sûr, c'est un tout petit peu troublant. Alors quand même, il faut dire que ces robots ne sont pas des robots. C'est-à-dire que l'idée qu'on se fait d'un robot, c'est quand même quelque chose qui est automatique. Alors, ils sont télécommandés. Mais bon, c'est une petite... C'est-à-dire qu'ils ont, hein, des petites réactions immédiates, hein, c'est-à-dire que si vous lui touchez la joue, elle va tourner la tête, mais sinon elle ne s'anime pas vraiment. Alors il y a quelque chose d'autre qui est très intéressant dans le même ordre d'idée, c'est Sophia, vous vous souvenez, hein, c'est poupée qui a prononcé un discours lors d'une assemblée générale, je crois, des Nations Unies, hein, il me semble. Et donc, bien sûr, les gens étaient absolument époustouflés. Tous les journaux en ont parlé. Hein. Et qui plus est, en Arabie Saoudite, on lui a donné la nationalité ou la citoyenneté saoudienne. Alors, bien sûr, on se dit quand même, si des robots peuvent avoir une citoyenneté, et si en plus ils prononcent des discours, c'est incroyable. Alors, il faut bien comprendre que c'est une supercherie à la dimension planétaire, bien sûr. Hein. Mais un tout petit peu de bon sens permet de déjouer cela. Hein, d'abord parce que le discours, c'est pas une machine qui l'a produit, c'est un discours enregistré. Ça fait longtemps qu'on est capable d'enregistrer un discours. Hein. Et puis deuxièmement, c'est dans cette machine. Et puis deuxièmement, parce que on a donné la citoyenneté saoudienne. Alors qu'est-ce que c'est que la citoyenneté saoudienne? On peut dire que c'est une forme d'oxymoron. Hein. Enfin, en tout cas, ce qu'est un citoyen, hein, normalement, hein, c'est, en tout cas dans nos pays démocratiques, c'est quelqu'un qui vote, qui donc a une volonté. Hein, parce que voter, ça vient de vœux, votif, hein, émettre une volonté. Or, en Arabie saoudite, hein, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Ça veut dire faire acte d'allégeance au souverain. Effectivement, qu'un robot fasse acte d'allégeance, hein, au souverain, ça ne gêne personne. Mais bien sûr, il ne faut pas se tromper sur le sens des termes. Alors, on va continuer. Hein. Donc ici, hein, j'ai rappelé, hein, les grands mythes. Hein. Donc Galatée, hein, on l'a vu. Hein, hein, mais ici, j'ai donné d'autres exemples de mythes. Hein. Le golem de Prague, vous savez que c'était une statue d'argile. Hein, donc dans le monde religieux, c'est important parce que c'est quand même le Dieu fait l'homme d'argile. Hein. Statue d'argile, quand on lui passe un message derrière les dents, elle s'anime. Et elle fait tout un tas de bêtises, hein, que je ne vais pas raconter ici, hein, mais qui sont très intéressantes. Donc j'ai parlé de Villiers-de-l'Adam, hein, des robots. Alors les robots, hein, c'est très étrange, parce que le terme robot est un terme qui est utilisé dans le monde de la technique, mais qui ne vient pas du tout de la technique, et qui vient de la science-fiction, hein, d'un dramaturge tchèque qui a inventé cela. Donc ça vient, hein, de rob, ça veut dire esclave en tchèque, hein, ce sont des travailleurs artificiels. Et qui, bien sûr, ont des conséquences, enfin, leur activité a une conséquence funeste, c'est que, hein, on est dans une perspective marxiste, la dignité de l'homme est liée au travail. Comme ces machines travaillent à la place de l'homme, l'homme perd en dignité ce que les machines acquièrent en dignité, et donc ensuite, bien sûr, elles vont remplacer les hommes. Donc il y a de quoi faire extrêmement, extrêmement peur. Donc j'ai dit menace, hein, le double de l'homme ou de la femme, hein, la fin du travail, hein, donc est-ce que vraiment, hein, nous allons ne plus travailler, hein. Alors on va peut-être discuter de ça après, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, parce que ça pose quand même beaucoup de questions. Hein, la question des robots soldats, hein, ça c'est très intéressant. Hein, hein, est-ce que nous allons avoir des systèmes d'armes létaux autonomes, ce qu'on appelle les SALA, qui vont décider à la place des hommes quelles seront leurs cibles? Ce qui donne froid dans le dos. Donc, est-ce que ça va vraiment exister? Et ensuite, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on doit encourager ce genre de choses ou les condamner? Alors, vous allez me dire, ah ben, faut les condamner. Mais il y a des scientifiques qui disent, non, au contraire, les SALA, du point de vue éthique, seront extrêmement utiles. Alors, je vais essayer de donner des arguments. Alors, première chose, sur les SALA, je vais juste... Peut-être que vous avez vu vous avez vu cette vidéo? Personne?
It allows you to separate the bad guys from the good.
Alors, je vous laisse, c'est bon, parce que je pense que c'est intéressant.
But we have something
vous entendez?
Much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that?
Alors, je vais peut-être.
Little band is enough to penetrate. They cannot be stopped. Now,
what did you do for the victim?
I just did what I could for him. Things weren't even interested in me. They're just buzzing.
Government sources admit the intelligence community has no idea who perpetrated the attack, nor whether it was a state, group, or even a single individual.
So if we can't defend ourselves, then we strike back.
We are investing very heavily in classified defense projects.
We make it our deterrent, like our nuclear deterrent. We stockpile in the millions, the billions.
At key facilities, the White House, the New York Stock Exchange, Wall Street.
Are the public safe in their homes?
Well, we wish we had boots on the ground in every community in this country, but we don't. So our instructions,
Ollie?
Our suggestions are to
Ollie, oh, yeah. Hi. Hi, Ollie, honey. How's Edinburgh today? How are all your studies going, huh?
Good. Great.
Oh, great. Hey, aren't we doing a video call today?
I'm kind of with people, so...
Oh, well, come on, Oliver. This video right here. Oh.
No, I'm not going to click on that.
Claim relaxing firearm...
Donc là, sont les méchants, vous voyez, qui lancent des essaims de quadricoptères. Et donc vous allez voir un peu de... Alors c'est un film assez long, hein. Enfin c'est un petit... Voilà, ils arrivent dans une salle de classe et... Donc l'idée, c'est que ce sont des armes autonomes qui sélectionnent automatiquement et qui attaquent les gens. Still struggling to make sense of an attack on university campuses worldwide. Voilà. Je vous passe le parce que c'est juste pour donner une idée. Alors bien sûr, quand on voit ça, on est un peu paniqué, hein, on se dit c'est quelque chose de terrifiant. Hein. Alors bon, moi je pense que cette vidéo est une vidéo de propagande. Hein. D'abord, elle a coûté très très cher, hein, et ça a une fonction politique extrêmement précise, hein, sur laquelle nous pourrons discuter tout à l'heure. Hein. Mais derrière, il y a l'idée que nous allons avoir une nouvelle génération d'armes après la bombe atomique, enfin après la poudre à canon et la bombe atomique, c'est la troisième révolution dans l'art de la guerre, les armes autonomes. Alors ça donne froid dans le dos. Hein. Bien sûr, ce qui pose problème, c'est que ce concept d'armes autonomes, lorsqu'on l'analyse de près, est assez mal défini. Et bon, entre des armes automatiques et des armes autonomes, on ne sait pas très bien faire la différence. Alors, impressionnés par ce genre de choses, les parlementaires européens ont voté, hein, pour une résolution condamnant les armes autonomes. Mais dans leur résolution, hein, ils disent cela s'applique aux armes autonomes, mais ça ne s'applique pas au système d'armes automatiques. Ce qui est très intéressant parce que entre l'autonomie d'une machine et l'automatisme, il y a une marge que l'on ne sait pas très bien définie. Et je laisse ça pour la discussion de tout à l'heure. Mais je voudrais aller plus loin, hein. Donc des gens nous disent, au contraire, c'est très bien. Et en particulier, vous voyez, ce personnage tout à fait sympathique qui s'appelle Ron Arkins, qui est roboticien, nous explique que grâce à l'intelligence artificielle, nous allons avoir des robots soldats qui vont être beaucoup plus éthiques que les soldats. Parce que les soldats, pendant la guerre, ils perdent leur sang-froid. Hein, ils sont capables de tuer n'importe comment. Tandis que là, vous allez avoir des guerres propres grâce à ces robots. Parce qu'on va mettre dans ces robots les lois de la guerre juste. Et comme ça, ils ne tueront qu'à bon escient. Donc ça, je ne sais pas si ça peut vous rassurer. Pas trop. Hein. Alors, bien sûr, est-ce que c'est possible, hein? Alors, ça pose un tas de questions. Hein, éventuellement, on discutera tout à l'heure. Mais disons que les règles de la guerre juste, on les connaît. Hein. Ce sont des règles qui ne sont pas tellement algorithmisables. Hein. En particulier, vous avez un principe dit de discrimination pour distinguer entre le civil et le militaire. Or, aujourd'hui, surtout avec les guerres asymétriques, ce ne sont plus les uniformes qui permettent de distinguer le civil et le militaire. Et c'est très, très difficile. Or, qui plus est, quand bien même vous distingueriez entre le civil et le militaire, les lois de la guerre juste ont des exceptions. C'est-à-dire, quand un militaire est désarmé, on ne le tue pas. Et quand un civil prend part au combat, en général, il est considéré comme un combattant. Donc, vous voyez que ce sont des règles extrêmement compliquées. Alors, est-ce qu'une machine est capable de tenir compte de toutes ces exceptions et de faire... Certainement pas. Puis il y a une deuxième règle qui est encore pire, c'est le principe de proportionnalité. Il faut que la réponse soit proportionnelle à l'attaque. Alors là, chaque fois, hein, vous le voyez encore aujourd'hui, hein, que vous avez une attaque entre la bande de Gaza et Israël, on vous dit la réponse des Israéliens n'est pas proportionnelle à l'attaque, mais bon, quand on reçoit des scuds sur la tête, c'est sûr que ce n'est pas évident. Donc, ouais, c'est juste pour avoir une idée, hein, de la complexité des choses. Alors, dépassement, hein, ensuite, de l'homme et fin de l'humanité. Alors là, c'est le dernier point, bien sûr, qui est terrifiant. Alors, vous vous souvenez, hein, du très vénéré Stephen Hawking, hein, ce grand scientifique, hein, qui nous explique que l'intelligence artificielle pourrait être, hein, le pire événement, hein, dans l'histoire de la civilisation. Alors là, on tremble. Et Elon Musk, qui emboîte le pas, hein, ça date de 2017, hein, mais ils ont commencé bien plus tôt. Hein. Elon Musk, qui dit, il veut nous avertir, hein, de l'intelligence artificielle qui constitue une menace pire que la Corée du Nord. Hein, ce qui, effectivement... Hein, donc, alors, toujours dans cet ordre-là, hein, il y a, et c'est de ça dont je vais parler maintenant, hein, il y a des gens qui nous disent, voilà, les machines sont de plus en plus puissantes. En fait, c'est ça que disent Stephen Hawking, Elon Musk et bien d'autres. Hein, les machines sont de plus en plus puissantes. Et donc, vous voyez, ce sont des Américains, hein, surtout, hein, mais pas seulement, il y a des Anglais aussi. Hein, donc l'idée, vous voyez, ce schéma, je pense, résume très très bien. Ils nous disent, voilà, d'un côté, ils sont optimistes quand même. Hein. L'intelligence augmente, l'intelligence humaine augmente. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Comme vous êtes des spécialistes des sciences de l'homme, on peut discuter de cette question. Enfin, bon, peu importe. Hein. Mais l'intelligence des machines, à partir des années 50, augmente beaucoup plus vite et elle augmente de façon exponentielle. C'est ce qu'on appelle la loi de Moore. Et il y a un moment donné où les machines vont être plus intelligentes que nous. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer pour l'humanité ? C'est ce qu'on appelle le transhumanisme, le basculement. Alors, c'est un point dit de singularité au sens mathématique. C'est qu'une singularité, hein, c'est un point critique dans une fonction mathématique. Sauf que là, c'est une singularité dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez quelque chose qui, tout d'un coup, se renverse. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire face à ce risque existentiel ? Et c'est de ça, bien sûr, dont on va parler. Alors, la première solution qu'ont un certain nombre d'ingénieurs, c'est de renforcer les capacités humaines. Et Elon Musk, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est un homme d'une très grande générosité, a décidé de monter une entreprise pour nous aider à rivaliser avec l'intelligence artificielle. Au fond, c'est une question de ce que les Américains appellent, enfin ce qu'on appelle, on pourrait traduire en français, l'encapacitation ou empowerment, donner à l'homme des capacités supplémentaires pour lui permettre de rivaliser contre la machine. Alors il a monté une société dont l'objectif, c'est de développer les implants neuronaux. Et en particulier, vous savez que depuis quelques années, on soigne certaines maladies avec ce qu'on appelle la stimulation électrique profonde. On met des implants dans le cerveau, on envoie des fréquences élevées, et à partir de cela, les individus sont capables de, disons, les symptômes de certaines maladies, par exemple les symptômes de certaines affections du Parkinson, disparaissent, les tremblements disparaissent. Alors, ils disparaissent que pendant le moment où il y a la stimulation électrique. Mais ça permet quand même à des gens de mener une existence quasiment normale. Il y a d'autres tentatives d'application de ces techniques, par exemple pour certaines déficiences de la mémoire. Il y a même ici des gens qui pensent qu'on va pouvoir, ce sont des travaux qui sont faits à Berkeley, et donc ils mettent des capteurs et puis ils mettent ensuite des émetteurs qui permettent dans certaines addictions de dissocier un certain nombre de choses qui sont associées. Donc ça, pour soigner ce qu'on appelle les PTSD, post-traumatic symptom disease, les symptômes post-traumatiques. Alors, ce que souhaite Elon Musk, c'est monter une entreprise pour, il l'a fait en 2017, qui s'appelle Neuralink. Et dans un premier temps, donc, il voudrait essayer de développer les implants neuronaux à visée thérapeutique. Mais l'objectif ultime va beaucoup plus loin, c'est de nous donner des capacités intellectuelles supplémentaires en greffant sur nos cerveaux des dispositifs électroniques et en particulier des disques durs pour augmenter notre mémoire. Donc c'est une très bonne nouvelle pour vos enfants ou petits-enfants, parce qu'ils n'auront plus à apprendre l'étape de récitation, l'étape de multiplication, les déclinaisons latines, enfin tout ce qui, ce sur quoi nous avons passé de nombreuses années. Donc c'est une extrêmement bonne nouvelle de ce point de vue-là. Alors ceci étant, c'est vrai que ça peut poser deux problèmes. Le premier, c'est que certes, nous serons capables de rivaliser avec les machines, mais M. Elon Musk, certes qui est très généreux, mais qui va produire ces dispositifs, pourra mettre à peu près ce qu'il veut dans nos cerveaux. Et donc, ce sera une dictature potentielle. Enfin, je n'accuse pas M. Musk, mais disons, on pourrait s'inquiéter. Alors la deuxième chose, c'est qu'effectivement, les travaux actuels de neurosciences laissent entendre que nous en sommes très 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 loin. Et quand je dis très loin, c'est quelque chose d'un peu absurde. Alors, vous savez que la mémoire, c'est une fonction complexe, mais qui ne se résume pas simplement au stockage d'informations. On a pris l'habitude avec l'informatique d'assimiler mémoire et quantité de stockage. En fait, vous avez trois processus dans une mémoire. Il y a ce qu'on appelle l'encodage, c'est-à-dire le passage d'informations à un support de stockage. Ensuite, le stockage. Les stockages qui lui-même n'est pas neutre, le stockage qui n'est pas passif, puisque notre mémoire est le siège de tout un tas de transformations, c'est ce qu'on appelle la consolidation. Ce qui fait que, par exemple, le sommeil, la remémoration, tout ça, fait que nous transformons notre mémoire. Et puis ensuite, il y a toutes les techniques d'accès à l'information. Or, bien sûr, aujourd'hui, on ne sait pas comment nos informations sont codées dans notre cerveau. Et donc, il serait extrêmement difficile d'encoder les informations depuis notre cerveau vers les dispositifs de stockage. Et puis, ces dispositifs de stockage seraient passifs. Et donc, tout ce qui fait qu'on est capable, en dormant, de transformer notre mémoire, tout ce qui nourrit notre imagination, bien sûr, ne serait pas tout à fait présent. Et puis, alors, quant aux capacités d'accès, ce serait encore plus difficile. Alors, à ça, il faut ajouter que la mémoire n'est pas uniforme, il y a tout un tas de types de mémoire. Donc, vous voyez, cette façon de voir les choses n'est pas extrêmement convaincante. J'espère que je ne voudrais pas, parce qu'il y a toujours des gens qui... où est-ce que j'ai mis mon... Ah, il est là, voilà. Alors, donc, première solution, donc renforcer les capacités humaines avec l'intelligence artificielle. On voit que ça pose des petits problèmes. Alors, la deuxième solution, c'est s'hybrider à la machine pour télécharger sa conscience. C'est l'idée que les machines sont tellement puissantes qu'on va pouvoir, d'une certaine façon, être amis avec les machines, on va en faire des partenaires. Et l'une des hypothèses émises par un grand scientifique qui s'appelle Ray Kurzweil, c'est que nous allons, et nous sommes dans un cycle qui s'appelle ESSI, donc c'est quelque chose qu'il faut envisager sérieusement, nous allons être capables de nous hybrider sur les machines, mais d'hybrider non pas seulement notre corps avec des bras artificiels, avec des bras ou des jambes supplémentaires, avec toutes sortes de... mais nous allons carrément jeter notre corps et aller sur les machines. C'est ce qu'on appelle le mind uploading. Et d'après Ray Kurzweil, c'est quelque chose qui va arriver incessamment, en 2045. Alors, il a fait ses calculs, sur la courbe, et c'est inéluctable après lui. Il n'y a aucun choix. Le problème, c'est que si vous téléchargez votre conscience sur une machine, vous allez être une âme errante sur les réseaux sans corps. Que faire? Alors, il y a un autre milliardaire qui n'est pas américain, mais qui est russe, et qui a décidé de nous aider. Et pour cela, il dit que nous allons fabriquer des robots et que nous allons ensuite passer de notre conscience sur ces robots. Alors, il appelle ça des avatars immortels. Et vous pouvez aller sur ce site, je ne sais pas si vous le connaissez, le site, non ? Donc, vous y allez, 2045.com, et là, vous voyez, vous avez un bouton d'immortalité, et vous pouvez commencer à cliquer sur le bouton d'immortalité et à fabriquer votre corps pour l'éternité, votre avatar immortel. Vous allez me dire 2045, c'est dans longtemps, mais en même temps c'est pour l'éternité, donc je vous engage à commencer tout de suite. Et en plus c'est pas très cher. Et ça va plus loin, il y a des gens qui nous disent, il y a bientôt une nouvelle religion, une nouvelle église, ça s'appelle The Way of the Future Church. Puisqu'il s'agit d'immortalité. Alors, tout ça, je veux dire que, en tant que scientifique, me heurtait. Et donc, il m'a semblé nécessaire, et c'est ça qui a fait l'objet du livre dont on m'a parlé tout à l'heure, Le mythe de la singularité, un essai pour montrer que les arguments qui étaient allégués par ces personnalités importantes était de mon point de vue assez peu fondé. Et donc, sans démontrer l'impossibilité de ces projections, j'ai démontré l'improbabilité, c'est-à-dire le fait qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve qui étaient tangibles liés à cela. Et c'est ce que j'ai fait donc, dans ce livre. Alors, je vais vous donner très rapidement les arguments que j'ai employés, c'est que donc ces théories se fondent essentiellement sur deux idées principales. La première, c'est ce qu'on appelle la loi de Moore. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'accroissement exponentiel de la capacité de calcul des machines. Alors, est-ce que cela va inéluctablement conduire à des machines plus intelligentes que nous qui vont prendre le pouvoir? C'est une question ouverte. Mais je crois quand même qu'il y a deux éléments qui doivent faire réfléchir. Le premier, c'est que la loi de Moore est une loi d'observation qui n'a rien de définitif. Il se peut qu'elle s'arrête. Et il y a même toutes les chances, aujourd'hui, si on considère les technologies actuelles, vous savez que ce sont des technologies basées sur le silicium, et la loi de Moore est liée au fait qu'on intègre de plus en plus de composants sur un même chip, sur une même carte électronique. Et cette intégration de composants se fait, vous voyez, avec des... On fait des projections, vous voyez, on utilise des masques et on fait un microscope à l'envers, hein, et on projette des choses, et ensuite, alors on a tout un tas de techniques, hein, il y a des résines qui se polymérisent, hein, ça permet de faire des espèces de sandwich, hein, de différents composants. Hein, mais bien sûr, à un moment donné, hein, cette réduction va se heurter à des limites physiques. C'est qu'on va être en deçà de l'atome de silicium. Et donc, on ne pourra pas aller plus loin. Alors, les gens nous disent, oui, d'accord, mais il y aura un autre paradigme. Alors, vous savez que, si vous êtes des spécialistes, hein, des sciences de l'homme, vous savez que, justement, les changements de paradigme, hein, les révolutions épistémologiques, ça ne se commande pas comme ça. Hein, donc, on n'est pas... autant on peut dire que dans un paradigme donné, on peut prévoir les choses, mais les changements, hein, on ne les prévoit pas comme ça. Donc, c'est un peu... Beaucoup de gens pensent que, effectivement, cette loi Moore va conduire à sa fin. Alors, il y a aussi un autre argument, c'est que la loi de Moore, on a dit, c'est lié à l'exponentielle, à la progression exponentielle. Mais vous savez, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une sigmoïde? Alors une sigmoïde, hein, vous voyez, une exponentielle, ça va comme ça. Et une sigmoïde, hein, c'est une courbe en S, c'est-à-dire que hop, ça croît, puis ça devient presque vertical, et ensuite ça décroît. Hein, c'est ce qu'on appelle une transition de phase. Hein, c'est quand on passe, hein, d'une phase solide à une phase liquide, ou l'inverse. Et le problème, c'est que le début d'une sigmoïde, ça correspond à quelque chose qui ressemble à une exponentielle. Alors est-ce que l'augmentation de calcul va plafonner à un moment donné? Ça, c'est une question ouverte. Mais vous voyez, vous n'avez pas plus d'arguments pour dire ça va continuer que pour dire ça ne va pas continuer. Et en plus, on a plein d'arguments pour dire ça ne va pas continuer. Mais bon, indépendamment de cela, quand bien même ça continuerait, est-ce que la puissance de calcul va permettre de recréer une conscience sur les machines? Alors là, on n'en sait rien. Parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est qu'une conscience. En tout cas, le terme lui-même est assez polysémique, mais on voudrait avoir une machine qui tout d'un coup ait une volonté propre. Voilà, on ne sait pas exactement comment on va faire. Donc là, vous voyez, on est quand même très très loin. Donc c'est pour ça que je dis, ces arguments sont discutables. Puis la deuxième chose, c'est sont des gens un peu comme Harari, hein, qui nous disent les machines apprennent, et avec cet ensemble de données vertigineux, ce qu'on appelle les big data. Alors, vous voyez les big data, hein, moi pour donner une idée, comme je travaille avec des littéraires, hein, j'ai pris une unité de compte que les littéraires comprennent assez bien. C'est la Bibliothèque nationale de France. Vous savez qu'elle contient 14 millions d'ouvrages au catalogue des livres et imprimés. Hein, ça fait beaucoup. Hein, pour nous, c'est toute la connaissance. Et bien, si vous comptez 1 million de caractères par ouvrage, ce qui est une limite supérieure, c'est pas mal, 1 million. Hein, en général, on écrit moins, hein, quand même. Hein, d'accord, c'est beaucoup moins. Hein, et bien, ça donne 14 téraoctets. Et 14 téraoctets, maintenant, c'est ce qui... Sur un disque dur, vous allez avoir 14 téraoctets. Donc vous allez avoir la Bibliothèque nationale de France à côté de vous, sur votre bureau. Elle ne sera peut-être pas dans votre tête, ça c'est une autre question. Ça, il faut attendre Elon Musk pour qu'elle soit dans votre tête. Mais elle sera là. Et alors, ça nous paraît énorme, hein, bien sûr. Eh bien, si vous regardez Twitter, hein, c'est des petits messages, par jour ça produit 7 téraoctets. C'est-à-dire une demi-Bibliothèque nationale de France. Et puis, en 2015, le web, on estimait la taille du web à 7 zeta-octets. Alors, des zeta-octets, c'est 10 puissance 21 octets. Ouais, ça fait beaucoup. Et ben, en calculant, hein, ça fait un demi-milliard de BNF. Hein. Et aujourd'hui, hein, on en est, hein, à plusieurs milliards de BNF. Hein, et ça va continuer comme ça. Hein. Donc, ça vous donne une idée. Hein. Donc, effectivement, on se dit, si on est capable de tirer parti de toutes ces informations, on va avoir des machines qui vont nous dépasser. Et c'est bien sûr ce que disent un certain nombre de gens. Alors, quand même, pour lutter contre cet argument, hein, pour dire oui, les machines certes peuvent apprendre et avoir des performances extraordinaires, mais pas nous dépasser en tout, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, le type d'apprentissage qui aujourd'hui le vent en poupe, c'est de l'apprentissage supervisé. Vous donnez des exemples et vous donnez des classes de ces exemples. Ça veut dire qu'il y a un professeur. Ça veut dire qu'au fond, elles sont le reflet de nos propres connaissances. Donc même si elles traitent beaucoup, elles font ce que nous leur avons dit de faire. Donc en réalité, c'est un condensé de connaissances humaines. Ce n'est pas une autre connaissance qui se dégage. Et puis deuxième chose, vous savez, on a parlé tout à l'heure, l'évolution de la science, ça se produit pas seulement de façon continue, il y a des ruptures, il y a des transformations. Ce sont les changements de paradigme, les ruptures épistémologiques, et ça, on ne sait pas comment une machine serait capable de faire cela. Donc elle, en réalité, elle apprend dans un jeu de concepts qui lui a été donné a priori. Donc tout ça, pour dire, on n'est pas du tout certain ces machines vont nous dépasser. Alors on va aller plus loin, mais bien sûr, on pourrait aussi arguer cette chose étonnante. C'est que les gens qui nous expliquent que l'intelligence est dangereuse, ce sont en même temps les gens qui ont développé l'intelligence artificielle. Alors là, on se dit, c'est quand même bizarre. C'est comme c'est ce que j'appelle les pompiers pyromanes. Donc voilà un peu cette critique que j'ai faite de la singularité. Et là, et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a deux parties dans mon exposé. Je dois dire que je suis un tout petit peu gêné et confus. Parce que la deuxième partie, c'est une confession. Confession que j'ai faite. Alors j'ai changé mon nom, j'ai pris mon prénom, Gabriel Naege, l'anagramme de mon prénom plus exactement, parce que j'ose pas trop le dire, surtout à mes collègues informaticiens, moi ici, Sciences de l'Homme, vous allez comprendre. Je me suis trompé. La singularité est advenue, donc je suis très embêté. Mais en plus de ça, c'est maman, ma propre mère, qui a décidé de se télécharger, de se faire télécharger. Et c'est ce que je raconte. Et en plus de ça, elle s'est réincarnée dans quelque chose qui me trouble beaucoup, dans un robot sexuel. Et en plus, elle fait irruption à tout moment dans ma vie. Alors c'est ce que je décris dans ce roman. Alors je voudrais essayer de vous donner quelques éléments qui sont présents dans ce roman et qui peut-être permettent quand même de réfléchir un tout petit peu à ce que sera ce moment où la singularité technologique adviendra. Donc le roman se passe en... C'est le centenaire d'un personnage qui joue un rôle important, c'est Ray Kurzweil. Alors qui plus est, pour un informaticien, 2048, c'est une date importante. Alors vous, ça ne vous dit rien, mais vous savez que 1024, c'est une puissance de 2. C'est 2 puissance 10. Et donc 2048, c'est aussi une puissance de 2. Et donc, bien sûr, on peut penser que du point de vue symbolique, ça joue un rôle important. Et Ray Kurzweil, donc, fête ses 100 ans à ce moment-là. Alors voilà Ray Kurzweil, c'est un ingénieur qui est directeur scientifique de Google, qui est en même temps essayiste, il a écrit, et je vais en montrer quelques exemplaires, énormément d'ouvrages, où il explique que la singularité est proche, et qu'elle va effectivement transformer totalement le monde, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il a une vision, je l'évoque dans le mythe de la singularité, qu'on pourrait caractériser comme étant gnostique. Vous savez ce que c'est la gnose, ce sont des courants spirituels qui naissent dans les premiers siècles après Jésus-Christ et qui nous disent que le monde est mal fait et que c'est un faux dieu, c'est un usurpateur qui l'a fabriqué, et qu'il faut essayer de le réparer, qu'on peut faire ça par la connaissance, c'est pour ça que ça s'appelle une gnose, et que, bien sûr, les hommes qui vont parvenir à ça vont parvenir à une spiritualité parfaite. Et pour cela, bien sûr, on va essayer de réparer le monde. Et en même temps, c'est une vision un peu catastrophiste. C'est-à-dire qu'on va, à un moment donné, une transformation soudaine du monde va parvenir. Alors, c'est un peu c'est l'idée de la singularité, oui, cette transformation soudaine et réparation du monde. C'est-à-dire qu'on essaye de changer ce qui va mal. Par exemple, il y a des gens aux États-Unis qui nous disent le vieillissement est lié à des erreurs sur le génome. Et donc, avec l'intelligence artificielle, nous allons l'analyser et trouver les gènes responsables du vieillissement et les corriger. Ce qui est quand même formidable. Donc, c'est un peu ce que pense Ray Kurzweil. Alors, Ray Kurzweil, en plus, il a une immense vénération pour son père, dont il conserve l'ADN. Et donc, il veut, dans un premier temps, bien sûr, pouvoir vivre éternellement, et puis ensuite, essayer de recréer son propre père. C'est en même temps un homme d'affaires. Je vais donner quelques exemples. Donc là, vous voyez, sur son site, hein, qui s'appelle Accelerating Intelligence, hein, il donne, bon, il y a pas mal de choses, mais vous voyez, entre autres, des ouvrages hein, qu'il a écrit. Hein, vous voyez, Singularity Question and Answer. Bon, après, vous pouvez trouver tous ses livres si vous êtes intéressé. Hein, il n'y a aucun problème. Mais c'est un homme d'affaires. Donc, non seulement parce que il a monté une société il y a très longtemps hein, pour faire de la reconnaissance optique de caractère. Peut-être que vous avez entendu parler de la machine Kurzweil. Plutôt aux États-Unis qu'on utilisait ça. Hein, ouais, il a obtenu la médaille de la technologie des mains du président Clinton. Mais il a monté une petite société qui peut en intéresser certains d'entre vous parce que 2045, vous voyez, c'est proche. Mais bon, avec l'âge, on se dit qu'on ne sera peut-être pas tout à fait frais. Et donc, il a monté une société qui s'appelle Ray & Terry Longevity Products. Hein, et ce sont des produits qui vous permettent de vivre plus longtemps. Hein, ce sont des extraits de plantes. Hein, et il paraît qu'il en prend une centaine par jour. Hein, et là encore, bon, ça ne doit pas... Donc, Ray Kurzweil monté. Alors il a tout un, il a des journaux, etc. Et son entreprise a racheté un certain nombre de lieux, et en particulier, hein, donc avec les liens qu'il a avec l'église de la Voie du Futur, hein, ils ont racheté une église, hein, et c'est là, bien sûr, cette église est transformée en clinique. C'est l'église Saint-Sauveur à Granville, hein, qui est donc effectivement la municipalité n'a plus les moyens de la maintenir, et donc ils l'ont rachetée pour opérer les métempsychoses numériques là-dessus. Alors je voudrais juste, hein, sans rentrer dans le détail, vous citer quelques éléments hein, du roman, hein, en particulier donc parler de l'aspect technique. Des différentes phases de la métempsychose numérique. Donc métempsychose, vous voyez ce que c'est, hein, c'est-à-dire hein, c'est le fait de pouvoir changer hein, de corps hein, grâce au numérique. Alors la première phase, c'est ce qu'on appelle l'excorporation. C'est-à-dire que on est dans le corps. Alors il faut le faire bien sûr suffisamment tôt pour que la personne ne soit pas morte. Et à ce moment-là, on essaye de reprendre tout ce qui fait la conscience pour ensuite la mettre directement sur le numérique. Alors c'est pas une idée tout à fait nouvelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Charles Crow. Vous avez entendu parler de Charles Crow ? Non ? Non, vous connaissez pas Charles Crow ? Personne connaît Charles Crow. Ah ça, c'est incroyable. Vous savez que Charles Crow était un poète français du 19e, mais qui a été aussi l'inventeur du phonographe. Hein ? Et dans un de ses poèmes, il nous explique que les cerveaux ont été moulés par un procédé de galvanoplastie et ensuite conservés dans le sous-sol de l'hôtel de ville. Donc, vous voyez, c'est exactement la même idée hein, qui est présente. Malheureusement, bon, il n'avait pas un grand sens des affaires, Charles Crow. Vous voyez bien que pour le phonographe, hein, il s'est très mal débrouillé. Hein, et pour la métempsychose numérique, il s'est aussi très très mal débrouillé. Hein, on doit le regretter. Hein, mais c'est vrai qu'en France, on n'est peut-être pas assez sensible à ce genre de choses. Alors, je vais quand même revenir là-dessus. Hein. Donc l'excorporation, c'est une phase importante, hein, et c'est la première phase. Alors cette première phase, justement, ce que raconte le roman, hein, c'est quand même que cette phrase n'est pas du tout anodine. Parce qu'il y a un moment donné où la personne qui est excorporée se retrouve sans corps. Alors essayez de vous imaginer ce que ça peut être d'être sans corps. Et alors qui plus est, C'est d'autant plus difficile, on le verra après, que ça dure très 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 longtemps. Hein, parce que, enfin, très longtemps pour la conscience de la personne qui est décorporée. Alors j'ai donc ce que raconte donc ma mère, enfin dans le livre, hein, m'envoie un texto. Hein, alors les textos sont des choses bien sûr qui n'existent plus tellement hein, en 2048, mais bon, comme elle n'a pas d'autres moyens de faire, hein, parce qu'on enregistre plutôt des visios, elle envoie un texto et elle me raconte, alors je vais quand même vous lire peut-être si... Hein, attendez, je vais peut-être me déplacer parce que je vais avoir du mal. Enfin, le texte est sur l'écran, hein, mais ce qu'elle peut ressentir, hein, et ça me donne froid dans le dos, hein, parce que je me dis, bon, c'est quand même extrêmement douloureux. Voilà, donc elle dit, voilà, c'est ici tout a disparu.
Le monde a disparu. La nuit a disparu. Plus rien. Plus de nuit. Plus de jour. Noir absolu. C'est l'autre nuit. Une nuit totale, sans étoiles, sans lueur, sans parole. Ce n'est pas la pure nuit, le beau diamant de nuit. C'est une obscurité définitive, un néant vertigineux, une absence abyssale. Le monde ne vient plus à ma rencontre. Aucun accueil. Le vide. Je suis seul. Ce n'est pas moi qui suis là, et ce n'est pas de toi que je reste loin, ni des autres, ni du monde. Je ne suis pas là, je ne suis pas, je ne suis plus, plus rien n'arrive. Tout est derrière moi, dans ma mémoire. Je ne suis plus que ce moi passé irrémédiablement. Je suis l'entièreté, plus de séparation, plus rien ne vient, plus rien n'advient. Alors, pour bien comprendre l'angoisse de ma mère, là, il faut, et c'est une note de l'éditeur dans le livre, comprendre que elle vit ici dans un monde très difficile parce que sur une durée de 5 minutes, hein, donc le rythme de la pulsation, hein, si on est fidèle à la loi de Moore, hein, et bien sûr c'est dû parce que la loi de Moore, donc on est en 2049, et le rythme, hein, des machines, c'est de l'ordre, hein, de 10 puissance 15 Hertz, hein, c'est-à-dire 1 million de milliards de battements par seconde. Et donc ça, c'est le rythme, hein, des processeurs au moment de l'écriture du livre. Et il résulte donc de l'évolution de Gordon Moore. Et alors, à partir de ça, donc, ce qui se produit, c'est qu'une durée de 5 minutes, si on considère, hein, que chaque pulsation, c'est un éclat de conscience, hein, et si on compare à la durée d'un éclat de conscience dans notre cerveau, eh ben, sur 5 minutes, ça correspond à 3000 ans. Alors, bon, ça vous donne une idée, hein, de ce que c'est, hein, et du désespoir de cette pauvre dame. Et en plus, c'est ma mère. Alors, deuxième phase, c'est le raboutage à des capteurs. Et alors là, tout d'un coup, hein, puisque dans un premier temps, on l'a mise, parce qu'il fallait bien transformer les choses, hein, on l'a mise juste dans une puce, avec une pile atomique, hein, pour qu'elle puisse continuer, hein, à vivre. Et puis ensuite, on va mettre des capteurs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'expérience des cerveaux dans une cuve. C'est une expérience de pensée, hein, où on met un cerveau dans une cuve et on le remet, vous voyez, sur des capteurs extérieurs. Ben, c'est un peu la même chose, hein, hein, on la met sur des capteurs extérieurs. Et là, bien sûr, hein, c'est assez angoissant, hein, parce que, vous voyez ce qu'elle raconte, hein, le monde vient à moi, chaotique et inconsistant. Il est impalpable, mais il vient tout de même. Avant, il ne venait pas. Hein, donc, elle est très contente. Hein, viendra peut-être aussi la séparation d'avec la nuit, puis un second jour et un troisième jour, et un autre encore qui donnera peut-être au espoir insensé naissance à un enchaînement indéfini de successions. Pour l'heure, la lumière me transperce tout entière. Je n'ai pas de paupières pour en interrompre le flux. Les battements de la cloche qui résonnent au-dessus des micros me pétrifient. Il faut dire qu'elle elle est dans l'église en plus. Hein. Elle est sous le... Hein, puisque c'est là. Je n'ai pas de paupières pour en interrompre le flux, pardon. Les battements de la cloche qui résonnent au-dessus des micros me pétrifient. Il manque une concordance des sensations instantanées. L'horlogerie de ma conscience est déréglée. À chacun des stades de ma mécanique perceptive, il y a des trous, des arrêts, des débrayages. Je ne veux pas dire dans le temps, mais dans une certaine sorte d'espace. Il y a une dissonance abyssale dont l'écartèlement a le poids de la terre, une angoisse acide en éclair, ponctuée de gouffres, une angoisse subite où l'esprit s'étrangle, se coupe de lui-même, provoque congélation mentale et asphyxie. Vous voyez ce que c'est, hein, c'est quelque chose d'absolument terrifiant. Alors après, troisième phase, hein, la réincarnation. Alors là, elle va se réincarner dans un corps d'emprunt. Et ce qui me surprend, hein, c'est que elle décide. Alors, ce sont des choses donc qui sont introduites. En 46, hein, donc il y a quelques années, hein, c'était de nouveaux progrès de la robotique. Hein, hein, c'est d'ailleurs l'Ishiguro Corp, hein, en référence au professeur Ishiguro, hein, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui les développe. Hein, il appelle ça des PPP, donc pas des PP. Il y avait les jolis PP, hein, avant, hein, dans le temps, hein, mais les PPP, ce sont les pulpeuses à peau de pêche.
qui avec une texture très particulière. Bon, c'est vrai que moi j'imaginais pas de ma mère ça. Hein. C'est vrai que c'est bon, en même temps c'est son désir. Hein, on imagine, hein, voilà. Et donc, alors je rentre pas après dans le détail parce que ensuite bien sûr elle va être absolument insupportable. Hein, et mais je vous engage à lire le livre parce que d'abord elle veut assister à son propre enterrement. Mais bon, c'est bon, c'est pas normalement, il y a pas de robots dans les enterrements. Et alors qui plus est des pulpeuses à peau de pêche, ça se fait pas. Et puis après donc elle continue et c'est vrai qu'elle essaye quand même de faire une intrusion assez continue dans ma vie personnelle. Hein, et alors elle utilise en particulier des lunettes à réalité augmentée et comme elle est sur les réseaux. Elle transforme les perceptions qu'ont un certain nombre de gens. Enfin, je ne rentre pas dans le détail. Bon, il y a un peu une histoire d'espionnage derrière. Hein. Mais je voudrais conclure sur deux choses. D'abord, sur ce que sont les motivations. Et elle me le dit dans une lettre qu'elle me fait parvenir et qui, c'est vrai, me trouble un tout petit peu. Alors, je dis un tout petit peu. Hein. Donc, elle écrit une lettre avant de se télécharger. Avant de me télécharger, je te demande de nouveau de m'assurer de ta fidélité. Dorénavant, je ne serai plus que le carrefour irréductible de capteurs électroniques, d'effecteurs mécaniques et d'une conscience virtuelle. Le téléchargement me guérira en me disjoignant de la nature et en me faisant flux ubiquitaire. Si je migre, ce n'est pas pour disparaître, mais pour me reconstituer. Le transfert sera pour moi le moyen de reconquérir le monde, d'y faire irruption à tout moment, de devancer l'avance incertaine des autres. Par le téléchargement, je réintroduis ma volonté dans la nature, je donne aux choses la forme de ma détermination, je me délivre du conditionnement de mes organes si défaillants, je choisis le corps qui incarnera ma pensée et dirigera mes forces. Vous voyez que c'est une volonté de puissance assez considérable et assez troublante. Alors la fin du livre, je ne vais pas donner exactement la chute, mais c'est vrai qu'après il y a un procès hein, et bien sûr hein, ce procès c'est contre hein, l'Église hein, de la Voie du Futur hein, qui en cachette hein, va organiser ces transmigrations de conscience hein, clandestines et ensuite bon bien sûr les juges d'un côté hein, veulent que l'humanité continue à progresser hein, dans la connaissance et en même temps hein, il y a quand même l'idée qu'il faut essayer de séparer hein, ces consciences virtuelles, immortelles hein, des hommes et donc il y a une sentence hein, de séparation hein, des deux dans le procès hein, et elle prend en compte hein, la douleur non seulement des hommes hein, bien sûr confrontés à ces mourant qui reste présent hein, à la vie, hein, la séparation entre la vie et la mort devient impossible, ce qui est insupportable, mais considérant aussi, bien sûr, la souffrance dont ces âmes errantes hein, sont l'objet, puisqu'elles souffrent énormément. Et donc voilà, la conclusion. Alors après, bon, il reste d'autres petites choses, mais je vous laisse le lire. Je vous remercie et je propose hein, qu'on échange à partir de ça. Je suis désolé, j'ai peut-être été un peu long. Vous m'aviez dit un peu plus d'une heure, ça.
Peut-être éteignez votre micro. Ah.
Non, merci beaucoup pour cet exposé absolument passionnant et fascinant. Alors, donc, j'ai eu la chance de lire ce livre. Je ne vais pas en faire un résumé, mais vous avez cité des passages qui sont représentatifs. Mais il y a alors c'est à la fois un livre qui est il y a des perspectives qui sont assez effrayantes, hein, mais vous les avez bien décrites dans la première partie de votre présentation. C'est également un ouvrage fort drôle. Hein. C'est un ouvrage fort drôle parce que vous l'avez pas évoqué. C'est que cette maman qui est téléchargée. Et vous allez comprendre, vous allez sans doute sourire, elle ne se fatigue jamais, hein, puisqu'elle est dans un robot. Et donc elle harcèle son fils, elle veut contrôler sa vie amoureuse, et évidemment, il craque, hein, à l'âge de 40 ans, il fugue. Hein, donc une fugue à 40 ans, c'est plutôt drôle. Alors, effectivement, les perspectives sont effrayantes dans la mesure où on renaît dans le corps de notre, et puis il y a des références à l'immortalité. Mais alors, pour faire court, et puis ensuite passer la parole à la salle, moi il y a deux questions que je me pose. La première, c'est finalement, il y a une assimilation entre les données, le téléchargement, et puis l'intelligence, parce que dans ce robot, on ne recrée pas une forme d'intelligence. on télécharge, on ne sait pas ce qu'on télécharge en fait. Hein, et vous l'avez bien décrit dans la première partie de votre présentation, l'intelligence, on ne sait pas ce que c'est. C'est un mélange de facultés cognitives, de mémoire et puis de signaux électriques, hein, chimiques, que l'on ne sait pas pas très bien décrire. Alors, je ne suis pas du tout neurochirurgien ou neurologue ou qui me permettrait de d'avoir des connaissances me décrivant cela, mais donc la méconnaissance que l'on a de l'intelligence, hein, nous éloigne en fait de ce risque, de cette peur que l'on peut avoir, hein, en particulier vous avez évoqué, hein, les peurs affichées des spécialistes, hein, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi. Peut-être derrière, ils veulent contrôler ces peurs. Et le deuxième point, c'est finalement, vous avez décrit une progression, hein, de l'intelligence humaine qui a démarré en expliquant des phénomènes inexpliqués par la religion, puis finalement l'humanisme a pris le relais et le dataïsme. Mais finalement, est-ce que vous ne revenez pas à la religion, hein, en séparant l'âme, hein, du corps, finalement, un naturaliste, hein, rendrait indissociable ces deux dimensions, un religieux les séparer. Donc, est-ce que finalement vous ne revenez pas à cette genèse?
Alors pour la première, effectivement, hein, en tout cas Jean-Gabriel Ganassia, hein, le scientifique, vous dirait que je suis en accord avec vous, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, là, cette notion de conscience, hein, qui serait transmise aux machines, est mystérieuse. Et on a affaire à un paradoxe, c'est-à-dire que avec les sciences, qui en principe sont dans leur fondement monistes, c'est-à-dire qu'elles essayent de réduire tout à une seule détermination, on arrive donc à cette vision paradoxale, c'est-à-dire qu'on a un dualisme complet, c'est-à-dire qu'on a une espèce de retournement ultime, c'est-à-dire qu'en en voulant essayer d'utiliser la science et la technologie moderne, on va arriver à dissocier complètement la conscience du corps. Et on suppose, chose étonnante, que vous auriez la même conscience sur un corps totalement différent. Ce qui est un tout petit peu paradoxal. Puisque si on est matérialiste, on pense que c'est la physiologie qui va produire la conscience. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un fonctionnalisme, c'est l'idée qu'on peut reproduire par des flux d'informations tous les phénomènes. Donc ça, c'est une première question, effectivement, qui est, je crois, tout à fait discutable. Alors moi-même, j'avais, et vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, commencé par un livre que j'avais appelé « L'âme machine ». Mais bien sûr, à l'époque, c'était plus une façon de narguer des courants des sciences cognitives qui étaient très réductionnistes. Et en particulier, c'était les courants de Jean-Pierre Changeux, qui pensait qu'on était capable, en réduisant tout à des processus neuronaux, de comprendre l'ensemble des aspects cognitifs. Et quand je l'ai écrit l'âme-machine, d'abord c'était une évocation de l'homme-machine de la maîtrise, mais en plus de ça, c'était de façon amusante, dire en intelligence artificielle, on reproduit l'âme, alors pas au sens métaphysique, mais l'âme au sens aristotélicien, vous savez, dans le de anima, c'est-à-dire le psychisme. Donc c'était ça. Alors deuxième question, vous parlez de Harari, et là je crois que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que Harari nous dit qu'il y a trois grandes phases dans l'histoire de l'humanité, et donc il dit il y a l'âge des religions, ensuite il y a l'humanisme, et puis aujourd'hui il y a le dataïsme. Mais là où je pense que cet historien, qui est talentueux, je vous dis, dans l'écriture, n'est peut-être pas historien jusqu'au bout, mais je vous laisse en juger, c'est que nous savons très bien qu'au début de l'époque moderne, la question se pose déjà, c'est-à-dire est-ce que l'homme est totalement déterminé par la nature, ou au contraire, est-ce qu'il a un libre arbitre? Cette querelle existe. Eh bien, nous avons exactement la même question aujourd'hui. Et lui nous dit, ah ben aujourd'hui on est totalement déterminé, on est capable de tout anticiper. Mais on n'est pas plus capable aujourd'hui d'anticiper ce que nous sommes que nous l'étions à l'époque, au début de l'âge moderne. C'est que les neurosciences, là encore, je dis qu'ils font des progrès considérables dans la compréhension de ce que l'on est, mais elles ne permettent pas du tout d'anticiper ce que seront nos désirs ou nos pensées, hein, en dépit de ce qu'affirment un certain nombre de gens qui font par exemple du neuromarketing ou des choses comme cela. Alors on peut effectivement mieux savoir quels sont le siège d'un certain nombre de choses, hein, ce que font des gens comme Stanislas Dehaene par exemple, hein, c'est extrêmement intéressant, hein, mais ça ne permet pas, hein, d'anticiper l'individu lui-même.
On va peut-être prendre quelques questions de Nassim.
Bonjour. J'ai appris dans votre roman l'existence d'un pays nommé la Sildavie. Curieusement, ça me rappelle quelque chose.
Ça doit rappeler quelque chose, ouais, au lecteur de bande dessinée, ouais, c'est ça. Hein. C'est du Tintin. Ouais. C'est un pays imaginaire, bien sûr, hein, qui, dans lequel il y a des mines de sel. Hein, c'est... C'était pour la fin du roman, effectivement. Ouais, ouais, tout à fait.
Pourquoi il y a des mines de sel ailleurs?
Tout à fait, mais justement, je voulais que ce soit vraiment un véritable ailleurs, voilà, c'est ça. Hein. Mais la Sildavie elle-même, d'ailleurs, chez Hergé, hein, c'est un mélange de différents pays. Hein. Il a beaucoup fait ça, Hergé, hein. C'est-à-dire qu'il a créé des contrées qui étaient... alors, on voit bien que c'est dans les pays de l'Est, hein, mais on sait pas trop où c'est. Hein. Et c'était, voilà, c'était un peu ça que je voulais introduire, hein, dans l'imaginaire, pour pas trop localiser les choses. D'autant plus que c'est... Enfin bon, je ne raconte pas, mais enfin c'est assez terrifiant en même temps.
Bonsoir, merci pour votre conférence. Ce qui est un petit peu me dissuade, c'est le fait que cette confrontation entre le module et la réalité, plutôt entre une certaine frustration par rapport à ce qu'on appelle entre guillemets intelligence artificielle, pourquoi ne pas parler de l'intelligence de l'homme, enfin en quelque sorte, parce que ce qui est dans cette intelligence, elle émane de la propre intelligence, de notre propre intelligence, c'est du programme, c'est un programme, c'est un algorithme, c'est quelque chose qui émane de nous. Et je n'arrive pas à comprendre entre cette fiction et la réalité, en ce sens qu'il y a une réincarnation entre quelque chose qui part et quelque chose qui revient. Et franchement, on est dans des labyrinthes un petit peu tirés dans tous les sens. Merci.
Alors, effectivement, hein, le problème, c'est que le terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, est ambivalent. Donc, le premier sens, discipline scientifique, lui, à mon sens, est assez clair. Vous êtes d'accord avec moi, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre toutes les fonctions cognitives, de les simuler, hein, et de les confronter avec ce que les hommes font, et ensuite on tire parti de cette simulation dans tout un tas d'applications pratiques. Donc ça ne pose aucun problème. Ensuite, hein, ce qui va être beaucoup plus problématique, c'est justement cet usage du grand public, où on se dit c'est une intelligence. Alors je vais te donner un exemple. Vous savez qu'il y a un médecin extrêmement connu, hein, parce qu'il a ensuite fait l'école des hautes études commerciales, il a monté une grande entreprise qui s'appelle Doctissimo, hein, et il a fait en France l'école nationale d'administration, ce qui est assez considéré dans ce pays. Et donc il s'appelle Laurent Alexandre, et il a écrit un livre qui est très intéressant, qui s'appelle, enfin très intéressant, le titre est tout à fait révélateur de ce dont vous parlez ici et de cette frustration qu'on peut ressentir, la guerre des intelligences. Ça laisserait entendre que nous affrontons face à la machine à une autre intelligence qui peut nous dépasser. Alors, bien sûr, ça n'a pas de sens. Alors, d'abord parce que il va évaluer l'intelligence en prenant une mesure qui est celle du QI. Alors, on sait très bien qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement réducteur, Et bien sûr, tous les psychologues connaissent les limites de la notion de QI qui a pu avoir une portée opératoire hein, dans des contextes très très précis, hein, que ce soit la psychologie de l'enfant ou au contraire hein, la mise en place hein, aux États-Unis hein, de la logistique hein, du débarquement américain en Europe. Hein. Mais bien sûr, cette notion de QI pose tout un tas de problèmes. Mais surtout, hein, ce qu'il faut bien comprendre, et je crois que c'est un peu ce que vous disiez dans votre question, c'est que l'intelligence des machines, si tant est qu'elle puisse exister, normalement, c'est nous qui la donnons. C'est-à-dire que c'est une projection, hein, c'est une forme, c'est de l'animisme. Vous voyez, c'est nous projetons l'intelligence sur les machines. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, hein, je suis d'accord avec vous.
Une toute dernière question, rapidement. On a dépassé un petit peu le temps imparti. Non ? Bien, merci beaucoup et encore une fois félicitations pour cet exposé.